BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine encore, après Lyon, après le salon du Made in France, c'est une émission spéciale de La France a tout pour réussir. Une émission spéciale entièrement consacrée au BFM Awards. La 17e édition s'est tenue mardi dernier dans le cadre prestigieux de la pyramide du Louvre. Comme chaque année, les plus belles réussites de l'économie française ont été mises à l'honneur. Et notamment, Bernard Charles, qui a été désigné manager de l'année pour Dassault Systèmes, mais aussi, et dans le désordre, on reviendra sur les prix reçus par la Camif, le groupe Trigano ou encore le groupe Grandir, Pierre Fabre et bien d'autres. Et pour revivre en 26 minutes cette soirée symbole d'une France qui a tout pour réussir, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Sandra Gandouin, qui était la maîtresse de cérémonie de ces 17e BFM Awards mardi dernier avec Christophe Jacubizine. Et tout d'abord, donc, une image qui a particulièrement marqué ces 17e BFM Awards, celle des dirigeants des 12 nouvelles licornes françaises de 2021, réunies pour la première fois sur la scène, donc, de la pyramide du Louvre. En quelques mois, on a en effet plus que doublé le nombre de nos licornes tricolores. On va donc revivre le début de cette séquence révélation de l'année. Et c'est Grégory Rabuel, le PDG d'Altice France et de SFR, qui a ouvert l'enveloppe juste devant vous. Sandra, on en parle dans un instant. On en parle donc juste après. Voici Grégory Rabuel et son enveloppe.
Il y a une surprise incroyable, Christophe. Donc le BFM Award de la révélation de l'année n'est pas attribué à une seule entreprise ou une seule licorne. On a décidé de mettre le paquet ce soir et finalement on a décidé de saluer les 12 licornes françaises de 2021. Et donc on appelle les 12 chefs d'entreprise des 12 licornes françaises à monter sur scène avec nous ce soir.
Venez avec
C'est-à-dire
nous.
C'est-à-dire Vestiaire
ce soir.
Collective,
Content Square,
Alan,
Shift Technology,
Back Market,
Ledger,
Sorare,
Mano Mano,
Swile,
Dental Monitoring,
IAD
et Air Call.
On est très impressionnés, c'est très rare.
Venez
de vous voir
avec
ensemble.
Nous sur scène.
Vous êtes quand
Bienvenue.
Même les stars de l'économie française, la French Tech qui a complètement décollé cette année. Bonjour à tous, on est vraiment très heureux de vous avoir. C'est rare comme photo, hein, Grégory. Hein.
Voilà, magnifique photo de cette année, ce dynamisme des French Tech, de la French Tech et des licornes.
Alors,
de cette année.
Voilà donc pour cette première belle image d'ouverture de la cérémonie. Vous le disiez, Sandra. Bonjour, Sandra Gandouin.
Bonjour, Jérôme.
Eh bien, donc, quel dynamisme de la French Tech, vous l'avez vécu, c'était mardi soir sur la scène de la pyramide du Louvre. Et ce dynamisme, vous le constatez au quotidien.
C'était beau, hein, cette
c'était
soirée.
Beau. C'est vrai, c'était magnifique. Chouette, hein, vous étiez magnifique aussi, Christophe. Tout le monde était beau.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça reflète effectivement ce qui se passe sur le plateau de Good Morning Business et sur BFM Business en général. C'est levé de fond. C'est la French Tech. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'était 25 licornes. Rendez-vous compte, on en est déjà à 22. La dernière d'ailleurs c'était ce matin
ce vendredi, voilà,
effectivement, et c'est avec Hawking cette dernière licorne en date. Elles sont là tout le temps, les levées de fonds sont plus ou moins importantes effectivement, mais il y en a de plus en plus, et ça c'est ça qui montre que les start-up sont de plus en plus dynamiques dans notre pays finalement.
Et d'ailleurs vous le disiez, donc on est à 22 depuis ce vendredi, 21 il y a quelques jours encore, parce que la surprise dont nous parlait Grégory Rabuel il y a quelques instants, elle ne s'est pas arrêtée aux 12 licornes de 2021.
Ben oui, elles étaient toutes là, et c'est quand même extrêmement rare d'avoir cette image des 21 licornes qui sont sur une scène juste en dessous de la pyramide du Louvre. Excusez-moi du peu, hein. Laurence Descartes nous avait invité chez elle, et effectivement elles étaient toutes là ces licornes. On a presque atteint cet objectif et elles nous ont fait cet honneur de venir nous voir lors de cette soirée des BFM Awards, Jérôme.
Eh bien, on va écouter Clara Chapaz, c'est la toute nouvelle directrice de la French Tech. Elle était évidemment ravie. C'est elle donc qui représente les quelques 20 000 sociétés en France de la French Tech. On l'écoute.
Je pense qu'il faut qu'on se rende compte qu'on est et on vit un moment exceptionnel. On va se mettre en 2017 sur cette scène, il serait 3.
Ouais.
2017, c'est pas il y a si longtemps. Il se passe quelque chose d'unique en France et on peut en être fier. La montée de la French Tech, on la voit, on la sent, on la vit. C'est une personne sur deux en France qui utilise les services et les produits de la French Tech. Donc c'est vraiment dans le quotidien aujourd'hui des Français que les innovations produites par ce groupe, mais pas seulement par ce groupe, sont utilisées. On a 20 000 entreprises en France et je veux aussi les saluer qui font partie de la French Tech dans des domaines comme la Health Tech, la Green Tech, le Retail, vraiment tous les domaines d'innovation et qui aujourd'hui portent le monde économique de demain. Donc on peut être très fiers de ce qui a été accompli. Et encore une fois, bravo à eux, mais bravo à toute la French Tech pour ce beau parcours.
Alors cette photo de famille, Sandra, c'est vrai qu'elle est magnifique. Clara Chapaz est une excellente ambassadrice de la French Tech, mais c'est frappant, il n'y a qu'une seule, une seule femme sur la photo que l'on vient de voir. En plus, c'est même pas la fondatrice, c'est la directrice RSE de Vestiaire Collective.
Ouais.
Ce faible nombre des femmes dans la French Tech et plus globalement dans l'économie, vous le ressentez vous aussi en tant que femme et que présentatrice de Good Morning Business?
On le regrette évidemment, Duma Wen effectivement était là ce soir-là, mais c'est vrai que c'est trop peu encore, on le voit tous les matins, des French Tech on en a énormément, mais elles ne sont pas assez créées et dirigées par des femmes pour le moment. C'est une démission que Clara Chapaz s'est donnée évidemment à la tête de la French Tech, mais c'est aussi le cas finalement dans toutes les autres entreprises, quelle que soit leur taille. Il faut plus de femmes dans les comités de direction, il faut plus de femmes en général, c'est une question de formation, c'est une question aussi d'accompagnement de ces femmes à tous les stades de la vie. Donc effectivement, on constate tous les matins, on espère que ça va s'améliorer au fil des années.
Est-ce que ça s'améliore? Vous êtes à la tête de Good Morning Business depuis un an et demi maintenant. Est-ce que vous sentez quand même que ça progresse?
Oui, il y en a de plus en plus, mais c'est un mouvement qui s'amorce et ça prend du temps. Elles le disent toutes, que vraiment c'est en marche, mais pour le moment, ça prend encore un peu de temps. On espère déjà que l'année prochaine, ça se sentira encore un peu plus.
En tout cas, lors de la cérémonie, vous avez mis à l'honneur une jeune femme qui s'appelle Fiji Simo et elle réussit un incroyable parcours aux États-Unis, d'abord chez Facebook et puis maintenant chez Instacart. Alors vous avez pu échanger donc avec elle via Skype. On va réécouter cette interview. Mais tout d'abord, donc l'incroyable parcours de Fiji Simo, il nous est raconté par Delphine New et tout a commencé à 7 dans l'Hérault.
Une sétoise à la tête de l'application Facebook.
Fiji Simo.
Fiji Simo.
Fiji Simo.
Fiji Simo.
Fiji Simo.
Fiji Simo.
Fiji Simo a vu le jour en 1985 à 7 d'un père marin-pêcheur et d'une mère commerçante. À 16 ans, elle obtient son bac et intègre HEC après 2 ans de prépa. Après un passage chez eBay, elle atterrit chez Facebook en 2011 au cœur de la Silicon Valley. Son ascension est fulgurante. 3 ans plus tard, elle en devient l'une des vice-présidentes. Et en 2019, c'est le Graal, elle est nommée directrice de l'application.
Hello, I'm Fiji, I'm the new head of the Facebook app.
Pour Mark Zuckerberg, c'est l'une des responsables produits et chefs d'équipe les plus talentueuses. Après 10 ans de bons et loyaux services, Fiji Simo quitte Facebook et se lance un nouveau défi. Elle rejoint la start-up Instacart comme directrice générale.
Fiji Simo is the head of Facebook app and she has led the development of newsfeed, stories, groups, many more.
Aujourd'hui, Instacart est l'une des plus grandes start-up des États-Unis, valorisée à 30 milliards de dollars. Forte de son expérience, Fiji Simo s'engage aussi pour la représentation des femmes à des postes de direction.
On va revenir très très rapidement sur ce parcours. Vous êtes née à 7 de parents pêcheurs. Vous avez eu une carrière, déjà une carrière incroyable.
Écoutez, merci beaucoup pour cette introduction et merci de m'avoir inclus dans cet événement fantastique. J'aurais beaucoup aimé être avec vous en personne. Et en effet, je suis très fière de mon héritage familial, car même si je ne suis pas devenue pêcheur comme le reste de ma famille, ma famille m'a donné le goût du travail et cela m'a permis de tracer mon propre chemin.
Alors, il y a une vie après Facebook, vous nous l'avez prouvé. Vous êtes maintenant à la tête d'Instacart. Parlez-nous un petit peu de votre vie d'aujourd'hui, Fiji Simo.
Je viens tout juste de démarrer dans mon nouveau poste et mon but avec Instacart, c'est vraiment de créer les technologies nécessaires pour aider l'industrie alimentaire à mieux s'adapter aux besoins des consommateurs et de permettre à ces consommateurs d'avoir facilement accès à de la bonne nourriture. Je parle beaucoup à mes employés américains du fait qu'en France, la relation à la nourriture tient plutôt de la métaphysique, de la joie de vivre que de la subsistance. Donc encore une fois, mon héritage français m'aide beaucoup dans ce nouveau poste. Et j'espère que grâce à Instacart, on va aider beaucoup de familles à trouver de la joie dans la cuisine.
Voilà, donc la preuve par l'exemple que l'esprit français peut traverser l'Atlantique, mais aussi l'accent, ce bel accent languedocien qu'a conservé Fiji Simo. Et on va rester en Occitanie, direction à présent le département du Tarn, où est implanté depuis 1951 le groupe Pierre Fabre, un des géants mondiaux de la pharmaceutique et de la dermocosmétique, avec des marques très connues comme la marque Aven. Et Pierre Fabre, depuis le Tarn, eh bien, exporte dans 116 pays. C'est pour cela que son directeur général, Éric Ducournau, a reçu le BFM Award de la conquête à l'international. On l'écoute dans un instant, juste après ce sujet signé Delphine Liu.
Le groupe Pierre Fabre, c'est le mariage de la recherche médicale et de la dermocosmétique avec des marques comme Clorane, Ducray et surtout Avène. Les produits à base d'eau thermale sont le fer de lance de son expansion internationale qui a démarré au début des années 70 à Barcelone, raconte la directrice générale de la dermocosmétique, Nuria Pérez-Culel.
Le choix de l'Espagne se fait parce que le réseau d'officines de pharmacie espagnole est structuré de façon similaire à la France. Et donc, la pénétration, l'entrée dans le marché espagnol était quelque chose qui nous semblait faisable. Ensuite, après l'Espagne, nous avons ouvert d'autres filiales, par exemple l'Italie, puis le Portugal, etc.
En 1981, un partenariat avec le japonais Shiseido lui ouvre les portes de l'Asie. Et en 2003, une petite équipe est envoyée à Shanghai pour explorer le marché chinois.
Aujourd'hui, la Chine est notre première filiale internationale avec environ 8% de notre chiffre d'affaires.
Le groupe Pierre Fabre est présent dans 116 pays. L'international représente 65% de son chiffre d'affaires. Objectif, 70% avant 2030.
65% du chiffre d'affaires à l'international et depuis le Tarn. C'est ça qui est très intéressant, Éric Ducournau. Est-ce que c'est ça votre plus grande réussite ?
Bonsoir et merci pour ce prix. C'est effectivement, je crois, une prouesse, d'une certaine façon, de développer une entreprise internationale depuis une ville de 45 000 habitants. C'est un cas unique en France, hein, d'avoir le siège de cette entreprise dans une ville comme celle-là. Et ça nous rappelle la phrase de notre fondateur qui était de dire « être partout dans le monde tout en étant là ». Et c'est une des sources de vitalité de l'entreprise.
Alors je crois qu'en plus, vous avez entrepris encore de relocaliser davantage votre production. Pour quelle raison ?
D'abord parce que dans nos métiers, donc du médicament, des produits de santé et de dermocosmétiques, le fait d'avoir une unité industrielle où on va faire les extractions de principes actifs, la production, et ça nous permet beaucoup mieux de maîtriser des périodes telles que celles dont nous sortons et d'être beaucoup plus sûr de notre capacité à livrer nos produits à temps aux patients et aux consommateurs. En fait, le fait d'être ancré, si vous voulez, dans un territoire unique évite que les produits parcourt la planète, j'allais dire, avec les composants. Et donc avoir les composants au même endroit, les usines au même endroit. Nous avons 6 sites industriels en France et la totalité de notre production, comme vous l'avez dit, eh bien, ça permet d'être beaucoup plus fort dans ce genre de période.
Vous avez aussi fait partie du classement des meilleurs employeurs du monde, un classement du magazine Forbes le mois dernier. C'est important aussi la façon dont on traite ces équipes. Le bien-être des salariés, ce n'est plus une charge aujourd'hui, c'est un atout.
C'est un atout, ça nous oblige. Donc un prix comme celui-là nous oblige vis-à-vis des 10 000 salariés de l'entreprise. Il faut rappeler aussi que Pierre Fabre est la seule entreprise de cette taille à être détenue majoritairement par une fondation reconnue d'utilité publique, ce qui lui donne une raison d'être particulière, une relation particulière avec ses salariés, comme avec les patients, les consommateurs et toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons.
Et on va continuer avec une autre entreprise qui sait, qui veut concilier le business et les valeurs. C'est la Camif, marque historique très chère au monde enseignant pendant des décennies. Le groupe a pourtant connu un gros trou d'air dans les années 2000 jusqu'à la liquidation judiciaire en 2008. L'entreprise a été reprise par un couple, Emery et Armel Jacquia, à qui a été remis l'award de la raison d'être. On va les écouter dans un instant. Mais tout d'abord, eh bien, c'est quoi les nouvelles valeurs de la Camif ? Écoutez là encore les réponses signées Delphine Liu.
Depuis cette année, Camif est devenue une entreprise à mission. Mais c'est en fait depuis 2009 que le spécialiste de l'aménagement de la maison s'est engagé sur le chemin du Made in France et de la consommation responsable. Laurence Meignery est membre du comité de mission. Son fonds, Citizen Capital, accompagne le groupe dans sa transformation depuis 2013.
On creuse un sillon avec Camif depuis 7 ou 8 ans. On avait un distributeur qui aujourd'hui a aussi une activité d'édition avec un cahier des charges durable, qui est probablement le plus exigeant du marché. Et il faut savoir que dans le meuble, 95% de la production est faite en Chine, en Asie. On a un distributeur français qui propose 80% de produits faits localement en France. C'est assez exceptionnel. Et c'est pas fini, puisque Camille veut doubler son chiffre d'affaires du Made in France d'ici à 2025.
Depuis juillet, tous les produits fabriqués hors d'Europe sont bannis de son catalogue. Camif a aussi renoncé à son partenariat historique avec Amazon et boycotte le Black Friday depuis 2017. Des engagements qui ont pesé dans un premier temps sur les ventes, mais qui commencent à porter leurs fruits. Le chiffre d'affaires a bondi de 44% l'an dernier.
Et vous avez sorti, par exemple, on le disait, tous les produits non européens du catalogue. Vous voulez quand même doubler votre chiffre d'affaires, je crois, dans les 5 ans. Comment on fait quand on n'a plus de micro-ondes chinois ?
Bah justement, on n'a plus de micro-ondes, mais on a des clients qui sont attachés à consommer plus responsable. Et la première des choses, quand on interroge nos clients sur ce que ça veut dire de consommer responsable, c'est le local. Aujourd'hui, on travaille avec 106 fabricants français. On a encore la chance en France d'avoir des fabricants français qui représentent 77% de notre chiffre d'affaires. Ah oui. Et en fait, c'est possible et ça accentue, je pense, la différenciation parce qu'en plus d'être un levier de croissance, en plus d'être un levier d'attractivité pour la marque employeur, pour les clients, c'est aussi un impact social. On a pu mesurer que pour un emploi qu'on crée à Niort, c'est 14 emplois en France et un impact environnemental parce que faire de l'économie circulaire et produire en France, ça émet 9 fois moins de CO2 que produire en Chine.
Armelle Jacquia, ça fait des salariés heureux. Personne n'a envie de quitter la CAMIF.
Bah, c'est un levier très fort d'engagement, ah oui. Bien sûr. Emery en parlait tout à l'heure. Pourquoi on est là ? On passe quand même beaucoup de temps au travail. Et tant mieux si c'est un épanouissement et si ça sert de guide et de cap.
Et donc Sandra, je le disais, forte mise en avant pendant cette cérémonie des entreprises, des valeurs de l'entreprise, des entreprises à mission. On voit bien que business et valeurs, eh bien, c'est des choses qui peuvent faire bon ménage et de plus en plus.
Oui, effectivement, ça concerne les produits, comme on l'a vu sur la CAMIF, où les produits non européens ont quitté le catalogue, effectivement, mais c'est aussi le bien-être des salariés, le télétravail, on l'a vu, avec la CAMIF, d'une part, avec Éric Ducournau, meilleur manager,
Fabre, ouais.
D'après Forbes, le bien-être des salariés, c'est un atout, ils le disent tous, même Jacques-Antoine Grandjean, le fondateur de VP, qui était une des licornes, il ne voulait pas parler de licorne ni de valorisation. Pour lui, c'est trop financier, tout ça, c'est trop business. C'est le bien-être, c'est l'aventure. C'est toutes ces valeurs-là qui sont importantes pour ces entrepreneurs.
Et on va d'ailleurs parler d'une autre entreprise qui s'est construite il y a 20 ans sur les valeurs. C'est le groupe Grandir, un groupe de crèches d'entreprise né en France avec la marque Les Petits Chaperons Rouges et qui s'est fortement développé depuis avec désormais 1100 crèches réparties dans le monde entier. Son fondateur, Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki a reçu donc le BFM Award d'entrepreneur de l'année.
C'est en 2004, près d'Orly, qu'est née la première crèche inter-entreprise de France. À l'origine du projet, Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, un entrepreneur visionnaire, selon Jean-François Partio, associé au cabinet de conseil à Curacy.
Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki a été pionnier dans son secteur avec l'invention du segment des crèches d'entreprise. Et aussi, avec le souci accordé à la qualité, ça a été le premier groupe de crèches qui est certifié par un organisme indépendant. Le groupe a été aussi capable de construire des leaderships en France et à l'international, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni.
20 ans après sa création, la société compte 1100 crèches et écoles maternelles dans le monde. Prochain objectif du groupe, doubler de taille dans les 5 ans, grâce à l'entrée de Sodexo et du fonds Infravia à son capital cette année.
Des crèches en France, en Europe, en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé spécifiquement sur ce secteur il y a plus de 20 ans ?
Il y a plus de 20 ans déjà.
Ouais.
Un constat très simple. En France, on avait plus de 800 000 familles en liste d'attente pour une place en crèche. Il y avait un vrai besoin aussi d'accompagner les jeunes parents dans une meilleure conciliation entre leur vie pro et leur vie familiale. Il y avait une nécessité aussi d'accompagner les femmes pour leur permettre de faire carrière tout en ayant des enfants. Et donc, armé de ce constat et de deux convictions qui étaient, il n'y a pas de place dans ce secteur si on ne fait pas de la qualité. Et si on fait de la qualité, la performance du groupe est là pour être redistribuée à la fois en innovation sociale et en excellence pédagogique. Et armé de ça, on s'est lancé. Il y a eu un vrai partenariat public-privé avec les caisses d'allocation familiale, il faut le noter. Le modèle social français sur les crèches fonctionne, donc il faut s'en réjouir.
Et vous avez grandi, hein, 10 000 salariés aujourd'hui, chiffre d'affaires annuel d'environ 400 millions d'euros en 20 ans, c'est pas mal.
Pas mal du tout, en effet. Donc voilà pour Jean-Emmanuel Kodokanaki, désigné entrepreneur de l'année. Et à présent, eh bien, le manager de l'année. L'année dernière, c'était Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH, qui avait été désigné manager de l'année et même de la décennie. Et eh bien, cette année, c'est son fils Antoine, qui dirige la maison Berluti, qui est venu assurer la passation de ce BFM Award du manager de l'année. Et eh bien, comme on dit dans ce type de cérémonie, le vainqueur est... Écoutez la réponse.
Le BFM Award du manager de l'année est attribué à Bernard Charles, vice-président du conseil d'administration et directeur général de Dassault Systèmes.
Bernard Charles, l'homme qui, après avoir modélisé les avions, les voitures, bravo, les hôpitaux, a pour ambition de créer des jumeaux numériques de chacun d'entre nous. Bernard Charles, ce que beaucoup d'ailleurs ignorent, bravo d'abord, ce que beaucoup ignorent, c'est que pour valider les vaccins contre la Covid et pour réaliser les essais cliniques en un temps record, les laboratoires pharmaceutiques vous ont demandé de tester les vaccins sur des doubles numériques. Expliquez-nous.
Ben oui, en quelques mots, d'abord, je suis ravi de cette soirée. Merci pour cette reconnaissance qui va quand même d'abord à la force d'imagination des ingénieurs de Dassault Systèmes et aux scientifiques. Et justement, à propos de science, il se trouve que 70% des essais cliniques du monde aujourd'hui sont faits sur des plateformes de Dassault Systèmes. Et ça permet d'accélérer et de cibler les essais cliniques. Et les résultats sont là. Je suis ravi de voir que Stéphane Bancel a été reconnu hier dans ce domaine.
Et tout à l'heure aussi ici.
Voilà, et Stéphane est évidemment un grand client de Dassault Systèmes, ouais. Mais aussi BioNTech Pfizer et la plupart des grands de cette industrie.
Voilà, donc on commence à avoir un tour d'horizon complet de ces BFM Awards. On l'a vu à l'instant, Bernard Charles, on a vu Antoine Arnault. On n'a pas eu le temps de passer la famille Trigano. On manque un peu de temps, mais ils ont été mis à l'honneur aussi. Oui. Toutes les licornes françaises. Encore une fois, quel casting. Tout le monde était présent pour la cérémonie.
Oui, c'est vrai que c'était impressionnant. En plus ou moins, ils voulaient tous être là pour cet immense dîner business, le plus grand dîner business de France. Hein, c'est ce qu'on a dit. Effectivement, il y avait beaucoup de monde. C'était important, en fait, cette année, parce que pour cette 17e édition, on se retrouvait
en présentiel
après ces 18 mois, ces 2 ans de pandémie, et c'est vrai que c'était très important. Tout le monde a répondu vraiment à ce rendez-vous. Évidemment, en plus, Laurence Descartes nous a accueillis dans ce lieu extraordinaire juste en dessous de la pyramide. Personne ne pouvait louper ça, Jérôme.
Et puis j'ai aussi envie, Sandra, de remettre à l'honneur Guillaume Rosier, ce jeune homme de 25 ans qui a joué un rôle majeur dans la connaissance et la gestion de la pandémie. C'est lui qui a créé les applis Covid Tracker et Vitmadose. Christophe Jacubizi lui a demandé maintenant ce qu'il envisager désormais.
C'est quoi la suite pour Guillaume Rosier aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Quel est le prochain challenge que vous allez relever?
Vous savez, on n'a jamais imaginé une seule seconde la création de Covid Tracker, mais aussi de Vitmadose. Ça s'est vraiment créé tellement naturellement, tellement progressivement, et ça a répondu à un besoin. Donc c'est pour ça que des dizaines de millions de Français ont utilisé ces différents outils, et ça nous a vraiment complètement impressionnés. Et donc évidemment, j'ai du mal à prédire, à prévoir ce que je vais faire dans le futur. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément de choses à faire.
Énormément de domaines dans lesquels vous pouvez utiliser ces données.
Exactement. Aujourd'hui, je suis data scientist. Je pense qu'on ne peut pas faire de numérique sans produire des données, sans utiliser des données numériques, des masses de données, du big data. Et ces données sont encore aujourd'hui sous-exploitées. Et je pense qu'on pourrait faire vraiment de magnifiques choses en les utilisant, en les traitant, en les exploitant. Aujourd'hui, c'est ce qui a permis aux biotech de créer des vaccins, et je suis persuadé que demain, on va faire des magnifiques choses avec ces données.
Voilà, Guillaume Rosier qui cette année n'était seulement entre guillemets qu'un remettant, mais je suis sûr qu'il sera très vite un award dans les prochaines années, n'en doutons pas. On va terminer sur une note d'optimisme, c'est au cœur de l'émission La France a tout pour réussir chaque semaine, avec les interventions très remarquées, comme toujours d'ailleurs de nos éditorialistes maison, Nicolas Dose et Emmanuel de Chypre. Pour eux, aucun doute, le ciel est bleu pour l'économie française. Alors on a fait un résumé de leur message, donc on les écoute, on commence par le ciel bleu.
Le ciel est bleu. Et il y a plusieurs éléments constitutifs de ce ciel bleu. D'abord, il y a la croissance. Je vous rappelle que fin du troisième trimestre, l'acquis de croissance, il est de 6,6%. Il est donc déjà supérieur à la prévision 2021 du gouvernement. Et on a retrouvé le niveau d'avant-Covid dès cette année avec 6 mois d'avance. Personne ne s'y attendait. Le deuxième élément de ce ciel bleu, c'est l'emploi. Tout le monde s'attendait à des destructions d'emplois absolument massives. On avait évoqué des chiffres en centaines de milliers. On va faire 510 000 créations nettes d'emplois cette année. Il y a plus d'1 million d'offres d'emploi disponibles chaque jour sur le site de Pôle emploi et on voit que les problèmes de recrutement sont là. Donc la vague de chômage et la vague de faillite tant redoutée pour l'instant ne s'est pas produite. Le troisième élément de ce ciel bleu, c'est l'épargne. 170 milliards d'euros d'épargne accumulés par les ménages. L'OFCE a fait une petite projection qui n'est pas complètement irréaliste. Imaginez qu'en 2022, 20% simplement de cette épargne se libère. Vous avez 2 points de croissance en plus. Vous avez 2 points de taux de chômage en moins. Vous avez 1,2 point de déficit en moins. Et on a 4 points de dette en moins. Autre élément du ciel bleu, c'est l'open bar monétaire. Ça va continuer. Christine Lagarde ne cesse de le répéter. Le crédit va rester bon marché et la dette va rester donnée.
Et puis enfin, le troisième aspect positif, c'est que ça va accélérer aussi cette crise sanitaire. Et là, je parle de la France, le rééquilibrage. de nos territoires, parce que ça va accélérer encore le rapprochement des lieux de production et des lieux de consommation et éloigner les lieux de travail des lieux de résidence. Et vous le voyez aujourd'hui, ce qui se passe sur le territoire, c'est absolument fascinant. Fascinant, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez, regardez l'immobilier, c'est les petites villes, les villes moyennes qui marchent. La dynamique de l'emploi dans les petites villes et les villes moyennes, elle est plus forte aujourd'hui que dans les grandes métropoles. Donc, comme Nicolas adore chanter, je finirai. Vous connaissez tous cette chanson de Jean Ferrat, La Montagne.
Oh là là, hein,
voilà. On va pas. Non, on va pas la chanter. Je vais pas te faire chanter. T'inquiète pas, mais.
Le piège.
Mais voilà, voilà. Comment peut-on imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Eh ben, moi, je vous dis que les hirondelles qu'on voit en ce moment, c'est plutôt les hirondelles du printemps dans nos territoires que les hirondelles de l'automne.
Les hirondelles du printemps pour l'économie française. On finit sur cette note de poésie de Manu Le Chypre. C'est bien résumé et c'est à son image d'ailleurs.
On est passé à ça du chant, hein, vous avez vu. Hein.
Vous pouvez chanter la chanson, Sandra, non?
Non, pas là non plus, merci.
Vous n'aimez pas Jean Ferrat?
Non.
Si, vous aimez Jean Ferrat. En tout cas, je précise, pardon, on retrouve notre sérieux que la cérémonie des BFM Awards est rediffusée ce week-end sur BFM Business, samedi à 20h, dimanche à 14h. Et vous, Sandra, eh bien, on vous retrouve évidemment toute la semaine prochaine aux commandes de Good Morning Business. Mais comme ce vendredi, donc vendredi qui vient de se passer, bien, c'est un duo féminin. On parlait de la féminisation de l'économie. Chez nous, c'est une réalité sur BFM Business.
Il y a des femmes
avec Audrey Maubert.
Effectivement, Audrey Maubert m'accompagnera toute la semaine pour présenter Good Morning Business dès 6h.
Et c'est donc bien sûr à la radio et pour la télévision, c'est sur le canal 24 sur RMC Découverte. Voilà donc toute la semaine, nous serons donc la seule chaîne info avec un duo féminin à la tête de la matinale. Bonne nouvelle, j'étais ravi de vous recevoir. Merci beaucoup, Sandra. Et nous, on se retrouve le week-end prochain pour un tout nouveau numéro de La France a tout pour réussir. Très bon week-end, très belle semaine. À très vite sur BFM Business.
BFM Business, La France a tout pour réussir.